Dans 3 jours et demi, c'est la Pentecôte. Alors, jeudi, vendredi, samedi, et puis voilà, le dimanche s'épanouit. On a lu ça hier, je crois que le prophète Samuel, à un moment donné, s'approche d'un fils d'Israël qui s'appelle Saül, et puis il prend de l'huile sainte, une corne, et il lui berce sur la tête. Et il lui dit, l'Esprit Saint, l'Esprit d'Élohim, l'Esprit va fondre sur toi. Et effectivement, il s'est passé que cet homme qui était un guerrier, qui était un homme d'une certaine noblesse, à cause de la bénédiction de Samuel, de l'huile sainte et tout ça, l'Esprit Saint, c'est une expression qui veut bien dire ce qu'elle veut dire quand même, a fondu sur lui, par la tête, et il a été entièrement bouleversé, entièrement retourné, entièrement un autre homme au milieu de tous les enfants d'Israël. Il a reçu l'onction de Dieu. Et lui-même, ben, comme le dit le texte qu'on a levé lui hier, je ne sais plus, je crois que c'était. Ça l'a changé. Intérieurement, c'était quelqu'un d'autre. Il était surélevé intérieurement, une dignité, une perspicacité, une perception qui était à la hauteur du Messie. Du Messie d'Israël, du roi d'Israël, de loin d'Israël. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est à cause de ça que David, ensuite, ne supportait même pas qu'on puisse penser, qu'on puisse, même si c'était devenu ton ennemi acharné, qu'on puisse penser que c'est normal de faire du mal à quelqu'un qui a reçu l'onction, comme ça, du ciel, l'onction du Messie, l'onction du Christ. Il a fondu sur lui. Les apôtres, c'est quelque chose de semblable, c'est vrai, parce que ce soleil qui s'est diffusé comme ça, qui est monté, qui était une onction glorieuse, qui était une onction de gloire, de victoire, et une onction résurrectionnelle, une onction. Voilà, c'est l'Esprit Saint qui avait ressuscité Jésus, c'était l'onction d'Anastasie a volé au-dessus de Jérusalem, s'est concentré au-dessus du temple de l'Eucharistie, de la scène. Il a par le toit de la maison, qui a disparu, si je puis dire, qui a fondu sous cette venue, et il a fondu à l'intérieur d'une manière eucharistique, par la bouche. Il a fondu par la bouche, de manière eucharistique, dans Marie, dans Marie et les apôtres, dans Marie et puis dans les 12 apôtres, et l'Esprit Saint a complètement transformé, et ce sont devenus je crois que pour Marie, la Pentecôte a fait d'elle. C'est une nouvelle Pentecôte, elle a eu cette Pentecôte, elle a eu l'onction. Déjà 7 fois, dans des moments très différents, mais elle a reçu des onctions totalement qui l'ont établie dans une nouvelle gloire, une nouvelle transfiguration, une nouvelle virginité. Mais là, elle a reçu l'onction en même temps que les apôtres, et de cette Pentecôte-là, elle avait reçu la Pentecôte au pied de la croix avec Saint Jean. L'Esprit du Saint avait fondu en elle à un moment où l'Esprit du Christ s'arrachait de son corps et venait en elle pour y faire un séjour à travers lequel le Père pouvait l'accompagner jusqu'à la lumière de gloire de la nature humaine tout entière commençant. Et pendant la résurrection, il y a eu une nouvelle Pentecôte. Mais là, cette fois-ci, la Pentecôte que nous fêtons demain, après-demain, dans 3 jours et demi, Marie a reçu une Pentecôte, enfin quelque chose, une onction nouvelle. En même temps que les apôtres, cette fois-ci, qui fait qu'elle était reine. C'est une Pentecôte de royauté, comme pour ça. C'est une Pentecôte messianique de royauté. De règne. Saint-Esprit veut, à travers elle, et l'Église tout entière, des apôtres jusqu'à la fin, régner totalement sur le véritable Israël qui est la nature humaine tout entière, rachetée par le sang précieux et ressuscité de Jésus. Elle a une Pentecôte royale pour elle. Pour elle, c'est ça. Elle est la reine. Elle peut être. Elle est établie et changée complètement corporellement en communion avec les apôtres pour pouvoir engendrer la grâce résurrectionnelle, la grâce du Christ royal, lui qui règne à la droite de Dieu le Père, au monde angélique, à l'intérieur du monde angélique, à travers elle. Et les apôtres en communion avec elle. Elle peut engendrer dans le monde glorieux de la vision béatifique une grâce résurrectionnelle d'une astase qui s'épanouit dans une onction de rédemption. C'est une onction merveilleuse. Elle a beaucoup changé. Au jour de cette troisième Pentecôte, même si la Pentecôte principale, qui est la sienne, c'est celle qui est au pied de la croix, c'est là où elle a été, on peut dire presque substantiellement changée. Alors, totalement changée, totalement investie par l'amour incréé de Dieu, par la procession incréée de l'époux et de l'épouse. Faisant émaner l'Esprit Saint, il y a quelque chose, est devenu le temple du Saint-Esprit, de manière faisant d'elle la co-rédemptrice, la nouvelle Ève. Mais là, à la Pentecôte qui vient, faut voir ce que c'est, quoi, cette royauté. On fait l'onction des rois en Israël. Et nous sommes les rois fraternels de l'univers. Si, étant à la grâce, laissant la mort de Jésus nous envahir et vivre en nous librement, et la résurrection de Jésus nous envahir librement, et accompagner, j'allais dire, ce grand mouvement de la résurrection du Christ s'évanouissant dans l'ascension, dans l'autorité, les portes largement ouvertes de sa communication d'amour, son sacerdoce d'amour, c'est une communication continuelle d'aller de retour en amour à l'état d'infinité parfaite avec lui. Voilà, nous en sommes allés et nous sommes établis, les petits rois fraternels. Mais pour ça, il faut recevoir, comme Saül, comme le roi David a reçu, cette onction, cette fulgurante. L'Esprit Saint doit venir fondre à l'intérieur de nous et nous établir comme ça, comme apôtres. Comme les participants, les les membres vivants du Christ vivant qui crée tout ce qui existe et qui vient sauver tout ce qui existe et qui vient engendrer dans tout ce qui existe, quoi, les changer entièrement sous le sceau du Saint-Esprit et de les relever tous sans exception dans l'unité. Dans l'unité de la Créateur de Dieu sur eux, ils sont un lorsqu'ils sont créés. Chacun. Ils retrouvent cette unité dans l'unité du Saint-Esprit. Cette unité qui fait qu'il y a intérieurement une seule extase, une seule sanctification, une seule transformation commune, lumineuse, royale. C'est de là que vient la noblesse du roi, la dignité divine de celui qui est à la droite de Dieu. C'est la noblesse des victimes éternelles d'amour qui sont les rois de l'univers. Alors ces jours-ci, toute cette semaine, pour nous y préparer, tous ceux qui sont consacrés, on leur fait lire le matin l'épître de Saint Jean. Pour se préparer à ça, pour se disposer à ouvrir largement tous les espaces de la nature humaine, passés, présents et futurs, de manière que leur simple souffle fasse que la fleur de la nature humaine s'épanouisse dans les temps anciens, passés, présents et futurs, ainsi que la nature angélique, ainsi que la nature elle-même, de ce qui est en train de s'épanouir des mains de Dieu qui est en train de la créer, ou qui va la créer, ou qui l'a créée. Alors c'est l'épître de Saint Jean. Il était très vieux quand il a écrit l'épître de Saint Jean. Et on lit ça. Alors ce matin, on lisait ceci, au chapitre 5, verset 15. Je veux, mes bien-aimés, que j'aime, je veux que vous sachiez, que vous possédez la vie éternelle. Je veux que vous le sachiez. Vous possédez la vie éternelle puisque vous avez mis votre foi dans le nom du Ben Elohim, du Fils de Dieu le Fils. Et dans le face à face avec Dieu, voici l'assurance que nous possédons lorsque nous déposons notre foi dans son nom. Si nous exprimons une demande selon son amour, il nous écoute. Mes bien-aimés, je veux que vous sachiez qu'il nous écoute dans tout nos désirs, dans toutes nos demandes. Nous le savons. Nous savons aussi que nous obtenons. Nous le savons bien. Nous le savons. Je veux que vous le sachiez. Et nous le savons. Ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché. Ceux qui sont engendrés de Dieu ne commettent pas de péché. Ils possèdent la vie éternelle. Et Ben Elohim, Dieu le Fils engendré par Dieu, les protège. Et le mauvais ne peut pas les atteindre. Bien-aimés, je veux que vous le sachiez. Vous possédez la vie éternelle. Je veux que vous le sachiez. Et nous le savons, que nous sommes de Dieu. Nous sommes sortis de Dieu. Nous sommes de Dieu, ex Deo. Nous venons de Dieu. Dieu vient de Dieu. Et nous, nous avons la vie éternelle, et donc nous savons que nous sommes sortis de Dieu, nous sommes de Dieu. Alors que le monde dans lequel nous vivons, il est au pouvoir du mauvais. Alors, il y a le monde qui est au pouvoir du mauvais. Et nous, qui sommes des émanations surnaturelles, divines de Dieu. Je veux que vous sachiez, vous avez la vie éternelle. Parce que vous avez déposé votre foi dans Dieu le Fils, donc on a déposé notre foi. On s'épanouit dans celui en qui on a mis notre foi. On est établi. Et lui est établi en nous. Alors que le monde entier, lui, au pouvoir du mauvais. Mais bien aimé, je veux que vous le sachiez, je vous écris pour que vous le sachiez. Eh bien, nous savons, j'aime bien ça, eh bien, nous savons, vous la connaissez, il faut savoir réaliser, voir, et laisser faire. Je veux que vous sachiez aussi que le Fils de Dieu, Dieu le Fils, est venu nous donner l'intelligence pour que nous puissions voir, connaître, naître en communion avec lui. Connaître, naître en communion totale avec lui. Celui qui est véritable. Et nous sommes à l'intérieur de celui qui est le véritable. Et celui qui est véritable, c'est son Fils Jésus-Christ. Yeshua HaMashiach Ben Elohim, c'est le véritable, c'est celui qui est vrai. Il a consacré, il s'est consacré à la vérité. Et bien c'est lui qui est le Dieu véritable. Je veux que vous sachiez que vous possédez la vie éternelle. Et que celui qui est vrai, vous pouvez le, dans la lumière, le voir, le contempler, c'est Jésus-Christ son Fils. Et c'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est la vie éternelle. Yeshua HaMashiach Ben Elohim. Alors, mes petits enfants, Ne vous attachez à rien d'autre. N'ayez pas d'idole. L'épître de Saint Jean, les épîtres de Saint Jean sont très simples. Elles sont très très simples. Dès lors qu'on baigne déjà, puis dès lors qu'on baigne déjà dans la lumière, et qu'on se laisse transformer à l'intérieur de Dieu dans le monde divin qui est Dieu, et qui est notre monde, qui est le monde de la Jérusalem véritable. C'est très agréable de venir respirer comme ça à l'intérieur de l'épître de Saint Jean, c'est vrai, parce qu'il a un cœur qui est tout simple et puis c'est. Il est sorti quand même de. C'est lui qui a vu sortir le triple témoignage au moment de la Pentecôte, de la croix. C'est lui. Car Jésus portait Marie en lui, il l'avait reçue en lui, puisqu'à partir de cet instant, Jésus l'avait dit sur la croix. Il a pris Marie chez lui. Et lui, c'était un intrépide, et donc il l'avait fait entièrement. Et donc il a reçu cette. Wow. En entier, il n'a pas laissé passer une goutte en dehors de lui, du souffle de Jésus crucifié, qui rendait son esprit. Inséparément au fond d'être en Marie, en lui aussi. Son sacerdoce a été immédiatement ouvert dans la vie éternelle, brûlé dans la vie éternelle. C'était fulgurant et comme une Pentecôte, hein, je veux dire, une onction, une force. De la droite de Dieu, les prémices de la lumière de gloire du face-à-face de Dieu dans la nature humaine. Il a porté tout ça. Il s'est habitué, forcément, il n'a jamais quitté ça. Ça a été ça de plus en plus. Hein. Cette fulgurante transformation, cet établissement avec Marie. Dans la vie éternelle et la personne du Saint-Esprit. Et la personne du Saint-Esprit lui a donné une intelligence, c'est-à-dire lui a fait lui permettre de rentrer à l'intérieur de l'âme de Jésus, déchiré, séparé, vivant dans son âme à la droite de Dieu le Père par la lumière de gloire. Et il s'est habitué à la vie éternelle. Et pour tous ceux qui sont habitués à vivre de cette Pâque, qui fait au fond le point central de notre baptême, de notre vie sur la terre, de notre vie chrétienne, et bien forcément à ce moment-là, on lit l'épître de Saint Jean, et puis ça paraît limpide. Enfin, c'est limpide. Et puis, dans cet état, il a vu sortir du cœur de Jésus le triple témoignage. C'était l'eau, le sang, et dans l'eau et le sang, l'Esprit Saint. Il le dit comme ça, bien sûr. Le corps de Jésus a fait sortir l'eau de la lance. Le corps de Jésus s'est déchiré. Il est sorti de dernière goutte d'eau, dernière goutte de sang. Et ce qu'il voyait extérieurement, il l'a reçu. Il fallait bien qu'il le recueille pour offrir la dernière goutte d'eau, la dernière goutte de sang que Jésus ne pouvait pas offrir puisqu'il venait mourir. Marie et lui ont reçu donc l'Esprit Saint de manière telle qu'ils ont pu offrir la vie éternelle. Il fallait pour ça la puissance du Saint-Esprit. Il fallait qu'il soit surélevé dans les immenses profondeurs de l'intimité lumineuse intérieure de la personne du Saint-Esprit. Et du coup, ils ont pu offrir le sacerdoce du Saint-Esprit à commencer ce jour-là. C'est pas symbolique, l'eau, le sang et l'Esprit Saint. Dans l'épître que Saint Jean y dit, il y a trois qui témoignent, l'eau, le sang et l'Esprit Saint. Et il indique là où est la véritable Pentecôte. Alors, il y a des gens qui disent, ça symbolise quoi l'eau, ça symbolise quoi le sang? C'est pas un symbole. Je m'excuse, mais l'eau est sortie du côté de Jésus, c'est réel. C'est très incarné. Alors lui, Saint Jean et Sainte Marie, ils ont recueilli l'extérieur. Ils ont recueilli les dernières gouttes d'eau, les dernières gouttes de sang, visibles, mais aussi dans ce qu'elles avaient d'invisible. Dans le monde visible et invisible de l'eau, du sang et de l'Esprit Saint, ils ont reçu du coup cette Pentecôte. Ils ont reçu l'onction fulgurante du Saint-Esprit. Qu'ils aient établi dans la vie éternelle, comme les seules sources de la vie éternelle dans le monde. Et quand ils sont ressuscités, tous les deux, aujourd'hui, ben, ils restent des sources de la vie éternelle. De plus en plus, de manière de plus en plus profonde, de manière de plus en plus... Eh bien, je veux que vous le sachiez, vous avez la vie éternelle. Il a donné l'eau, le sang, l'Esprit Saint, Jésus. C'est Dieu le Fils, c'est l'engendré. C'est Dieu éternellement engendré à l'intérieur de Dieu. C'est lui le Dieu véritable. Et dans l'intelligence, vous voyez que c'est lui le Dieu véritable. Tout ce que vous demandez avec lui, en lui, enfin, quand c'est lui qui le demande, ben vous l'obtenez. Et je veux que vous sachiez que vous l'obtenez, vous sachiez que vous pouvez le dire. L'eau, le sang, l'Esprit Saint, bien sûr, l'eau, on peut dire, bien sûr, que ça représente quelque chose symboliquement, mais c'est pas le symbole qui nous intéresse, nous c'est... Le précieux sang de Jésus. Le précieux sang de Jésus, c'est vraiment, c'est son sang qui coule dans ses veines et qui se donne tout entier dans la dernière goutte. La dernière goutte, c'est tout son sang. Tout son sang. Tout son sang qui a été livré, tout son sang qui a vécu en lui, tout son sang qui a animé les moindres, chaque seconde intime, divine, intérieure, vivante, de sa vie de rédempteur sur le monde, tout son sang qui circule et qui vit dans ses veines ressuscitées glorieuses, tout celle du futur, du passé, du présent, qui sont réfugiés dans cette dernière goutte de sang. Et ça, c'est le sang, ça fait partie du corps. Il a donné jusqu'au dernier mouvement vivant de son onction divine, incarnée, royale. C'est le Dieu véritable. Et l'eau, ben, il a donné tout son corps mystique vivant, toute la nature qu'il est venu. Il est venu dans le monde pour donner sa propre vie et pour donner sa vie divine, pour communiquer toutes les formes divines de sa vie divine et incarnée et glorieuse à tout ce qu'il avait créé. Ça, c'est l'eau, ça. Il porte en lui toute la création, ben, parfaite parce qu'elle est éternellement glorifiante de Dieu le Père. niveau parce que la dernière goutte d'eau, on sait très bien s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. C'est très simple. Donc la dernière goutte d'eau, c'est toute la vie. Toute la vie. C'est pas la même chose. Tout le sang. Et puis toute la vie. Bon. C'est pas un symbole. C'est corporellement que Jésus, chaque goutte d'eau, Jésus. Chaque molécule d'eau, enfin, chaque porte. Porte ce mouvement par lequel il vient mettre sa propre vie divine dans tout ce qu'il a créé, dans tous les enfants de Dieu. Et lorsque les deux se conjoignent à l'intérieur de nous, si nous posons notre foi à l'intérieur de lui, que nous voyons que c'est lui le Dieu totalement véritable, c'est lui, et bien à ce moment-là, l'Esprit Saint nous est donné à profusion. Et nous voyons que la vie éternelle, c'est Dieu, le Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est la vie éternelle. Eh bien, mes frères, je vous aime. Et si je vous écris, c'est parce que je vous aime. C'est pour que vous sachiez que vous possédez la vie éternelle. Voilà. Apprendre. À lire la Bible, c'est bien, vous savez. Apprendre à vivre de la parole de Dieu qui est venu sourdre ses premières, ses premières paroles dans une parole parfaite, dans la Pentecôte de la croix. Voilà, c'est un petit peu ce que l'Église, elle propose à ceux qui se ont compris que Jésus avait consacré sa vie pour nous et pour le Père à la vérité. Nous sommes consacrés à la vérité. C'est-à-dire, nous sommes à part. Et si on vit ça intérieurement, si on le vit en parlant, en le méditant, en le contemplant dans le Saint-Rosaire, en le vivant de manière lumineuse, ardente, dans l'union transformante, eh bien, nous vivons de la vie éternelle. Alors, c'est bien qu'on soit un petit peu libre, quoi, pendant 3 jours et demi, pour se disposer à cette Pentecôte, plutôt que de faire d'autres choses. Donc, avec un petit peu d'exorcisme, on chasse les occasions qui font qu'on ne peut pas se disposer à la Pentecôte. Alors, tous ceux qui veulent nous disposer à autre chose qu'à cette Pentecôte, mais qui partent à l'hôpital. Parce qu'ils sont vraiment malades. Ils sont sous le pouvoir du mauvais, donc.